À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, il est question d'un personnage absolument étonnant. Vous me direz que je répète toujours la même chose, mais j'avoue qu'il est vraiment surprenant, celui-là. Il est mort en 1919, il y a déjà un bon bout de temps. Il s'appelle Jérôme ou Hieronymus Jägen. C'est un Allemand. Jägen, ça s'appelle J-A-E-G-E-N, Jägen. C'est un directeur de banque. Oui, je vais vous parler d'un directeur de banque qui s'intéresse aux machines, à la comptabilité. Et la chose la plus étrange, c'est que sous la conduite de jésuites allemands, il en est arrivé à être vraiment, selon ses directeurs de conscience, il est arrivé à être un très grand mystique concret qui, ça n'y paraissait pas. Les gens ne se rendaient pas compte, si ce n'est qu'il était vraiment un catholique profond, qui pratiquait l'oraison, on le voyait à l'église, etc. Mais sa vie mystique est un peu comparable à celle des grands mystiques comme Saint Thérèse d'Avila. Vous pourrez dire que ça n'a pas de bon sens, que pour être un grand mystique, il faut être carme, comme Saint Jean de la Croix, ou carmélite, comme Saint Thérèse de Lisieux, puis surtout Saint Thérèse d'Avila. Puis, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, ça nous est raconté par un jésuite allemand, le père Joseph Stierle, et c'est traduit par un prêtre. Ce sont des biographies que j'ai trouvées dans un livre paru en 1959 intitulé « Messager du Christ ». Alors donc, cet homme peut nous intéresser, surtout quand on a vu la Banque de Montréal et la Banque Royale s'unir et devenir cette espèce d'immense puissance. Il n'a pas été directeur d'une banque aussi puissante, mais il a été quand même directeur de banque. Et en plus de ça, je le dis tout de suite, il a été député. Sur les derniers temps de sa vie, il est mort à l'âge de 76 ans, je crois. C'est le 29 janvier 1919 que Jérôme Jägen est décédé, qu'il a fermé au fond ses yeux à ce monde pour les ouvrir à l'autre. Ses yeux ont toujours été pleins de bonté, dit-on. Et sa dépouille mortelle, bien, elle a été enterrée au cimetière de Trèves, qui est sa ville natale, que l'on appelle en allemand Trier. C'est là qu'on conserve, dit-on, la robe ou le vêtement du Christ. C'est ce qu'on prétend. Elle s'est exposée de temps en temps. Peut-on y croire? C'est libre à vous. Et c'est à voir à Trier, n'est-ce pas, ou Trèves, cette robe du Christ qui conservait la cathédrale. La cathédrale est en partie du IVe siècle, c'est assez étonnant, c'est en Rhénanie, en Allemagne. La pierre tombale de Jérôme Jägen porte la simple épitaphe Hieronymus, c'est en latin, Hieronymus Jägen, je crois que ça se dit comme ça en allemand d'ailleurs, directeur de banque, tout simplement, écrit comme ça. Et la date de sa naissance, l'année de sa naissance, 1841, et sa mort, 1919. Le cercle de ses amis lui a gardé, pendant des années, une mémoire fidèle. Ils ont rendu témoignage des miracles de la grâce qui ont porté leurs fruits dans l'obscurité de sa vie. Il se rendait compte qu'il se passait quelque chose, mais il ne savait pas trop quoi. Heureusement que Jérôme Jägen, de façon discrète, a écrit des livres à la demande de ses directeurs spirituels. Et avec ses anciens amis et ses livres, on peut croire que Jägen, le mystique, nous apporte un message encore aujourd'hui, un message, oui. Un message très important pour nous, qui cherchons à comprendre un peu ce qui peut se passer dans l'âme des saints. Mais tout d'abord, on va aller voir qui est Jérôme Jägen. Il a eu une vie sans rien de particulier. Je vais vous la raconter assez vite avec ses textes à lui, juste pour voir comme c'était une vie, au fond, sans intérêt. Mais ça vaut la peine de voir que c'est pas donné à tout le monde d'avoir des grandes vies fantastiques. Et des gens qui ont des vies très simples comme les nôtres, ils sont peut-être des saints. Parmi vous, il doit en avoir. Alors, sa vie commence le 23 août. Il est né le 23 août. 1841 à Trèves, où il a vécu toute sa vie. C'est une ville étrange, Trèves. C'est comme Milan. Elle a été résidence de l'empereur de Rome à partir de 285. C'est là que Saint-Ambroise de Milan est né. Saviez-vous ça? Oui, il est né en Allemagne, si on peut dire en Rhénanie, de l'époque. Saint-Athanase y a été exilé. Je vous ai déjà parlé de ces grands saints. Saint-Jérôme, cet autre grand saint, y a fait des études. Alors, Jérôme Jägen y a passé toute sa vie, donc presque 80 ans, comme je vous ai dit tout à l'heure. Son père était instituteur à l'école primaire catholique et le jeune Ronny, comme on l'appelait, Hieronymus, Ronny, comme on l'appelait, il a fait ses premières armes, puis il est passé aux classes inférieures du lycée, puis de là, l'école des arts et métiers. Puis il a raconté lui-même ce qui s'est passé à partir de ses 19 ans. Voici ce qu'il dit en résumé. Du 1er octobre 1860 au mois de mai 1863, je suis élève de l'Institut royal des arts et métiers. Les arts et métiers. Appelé maintenant, dit-il, Institut technique. Bon, fait des études techniques. J'y étudie, dit-il, la construction des machines, la technique, les mines et quelques autres matières. En 1863, je termine mes études. J'entre tout de suite à la fabrique de machines Leis et compagnie à Trèves. Donc, du 1er octobre 1864 au 1er octobre de l'année suivante, je fais mon volontariat. C'est un service militaire d'un an qui est réservé aux bacheliers aspirants officiers. Donc, le 1er octobre 1865, il dit, j'entre à la mine Friedrich Wilhelm, dans la Ruhr, en qualité d'ingénieur des hauts fourneaux. Imaginez, ingénieur des hauts fourneaux, des laminoirs et des machines à forer. Il est mobilisé le 1er mai 1866. Il dit, je fais la campagne de Bohême, en Tchécoslovaquie, quoi, avec le régiment de Trèves. Et ce qu'on appelle la Tchécoslovaquie aujourd'hui. Hein. Avec le régiment de Trèves, de sa ville natale. Et je prends part à la bataille de Sadova, donc il était à la guerre vraiment, le 3 juillet. L'année suivante, Jägen, alors lieutenant, il rentre chez lui. Il dit, je reprends mon poste à l'usine Leis et compagnie. Et j'irai jusqu'en 79. Et sur le désir de M. Leis, j'apprends sous sa direction. Bon, là, il devient comptable. La comptabilité commerciale. Comme mon père était comptable, moi, puis mon père me disait que c'était pas drôle. Mon frère aîné aussi comptable, il paraît que c'était pas drôle. Ce qui me sera très utile, dit-il plus tard, à la banque. Pendant la guerre de 1870, là, avec la France, je reste presque toujours à Koblenz, comme lieutenant commandant temporairement une compagnie. À la fin de 1879, le fils de son patron, M. Leis, a terminé ses études et prend ma place à l'usine, dit-il. Je suis nommé directeur de la Banque Populaire de Trèves, qui vient de se fonder, et j'y reste 19 ans, jusqu'en décembre 98, à la fin du siècle dernier. Il y a 100 ans. Le 7 mars 1899, je suis élu député, comme je vous avais dit, et je reste jusqu'à la fin de la législature en 1908. Et durant ces années, je me suis efforcé d'aider certaines œuvres catholiques en m'occupant de leurs affaires sans rémunération. Il donne son temps. Il s'occupe aussi du soutien des œuvres catholiques en pays protestants. Parce que l'Allemagne est subdivisée en catholiques et protestants. Durant toutes ces années, Jägen prend une part très active à la vie des associations catholiques. À Berlin, il fait partie de la congrégation mariale et de l'association étudiante, qui s'appelle Academia. Il fait partie de la conférence de Saint-Vincent de Paul, puis de la chorale. Il fonde à Trèves le cercle d'études religieuses pour jeunes commerçants. Il en est longtemps président. Il raconte lui-même, d'ailleurs, après la guerre de 1870, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la guerre avec la France en particulier, lorsque commence le Kulturkampf, c'est un peu long à vous expliquer, en tout cas c'est une sous Bismarck, qui était très anticatholique, c'est des législations antireligieuses qui ont été passées là, au début des années 70. Hein. Lorsque commence le Kulturkampf, l'association catholique de Mayence, une ville d'Allemagne, n'est-ce pas, est fondée pour assurer la défense des intérêts religieux. Il dit, j'ai pris souvent la parole au nom de l'association, Et je suis dénoncé aux autorités militaires. Elles me demandent de renoncer à mon activité politique, alors je proteste en faisant remarquer que je ne parle pas comme officier, mais comme citoyen. Et que j'estime qu'il est de l'intérêt de l'État d'abroger les lois anticatholiques du mois de mai 1873, qui avaient été terribles, celles-là. Alors, on le voit, c'est la vie simple d'un laïc. Je vous ai raconté ça pour vous montrer la vie simple d'un laïc occupé à sa profession, comme tant de gens à Montréal et dans les environs. Il s'occupe de construction de machines, d'affaires bancaires, il s'occupe des comptes courants, puis des chiffres de la comptabilité, puis évidemment les soucis de clients qui sont anxieux. C'est pas une carrière brillante nécessairement sur le plan religieux, mais c'est un travail solide, sans grand éclat, mais très utile et très important finalement quand on y pense dans une société. Monsieur Yeagan a toujours rempli sa tâche avec fidélité et cela va de soi. Tous ont confiance en lui, il est prêt à rendre tous les services qu'il peut. Il défend résolument les intérêts et les principes catholiques, il est généreux, très bon. Il donne facilement des sommes considérables, car il fait des économies puis il vit simplement. Il est très agréable en société puis il est joyeux, quand il le faut. Et puis, eh bien, plein de sympathie pour ceux que le malheur frappe, s'occupe des pauvres. On s'étonne qu'il ne soit pas rentré dans les ordres, qu'il ne soit pas devenu jésuite ou je ne sais quoi. Et plus tard, qu'il soit resté même célibataire. Il habite d'abord chez ses parents, puis il se loue un tout petit appartement. Il prend ses repas au restaurant. Et voici que M. Yeagan se met à écrire. Écrire quoi? Non pas un ouvrage technique sur la construction des machines ou les intérêts composés. Non, un manuel de la perfection chrétienne. Il a 42 ans, ce moment-là. En 1883, paraît son livre. À 42 ans, là. Le titre, Lutte pour le souverain bien. Lutte pour le souverain bien. Monsieur Yeagan n'a pas compilé son livre d'après les auteurs anciens, non. Il connaît très bien les ouvrages de spiritualité, mais son message est issu de sa propre vie, là. Ça témoigne d'une aventure personnel. Dès le commencement, il s'était forcé d'imiter le Christ au milieu du monde. Ce qu'il nous dit nous permet de suivre d'ailleurs d'assez près l'évolution de sa vie intérieure. Et vous verrez, c'est extraordinaire. Il décrit en quelques mots sa jeunesse passée à Trèves où il est né. Il dit « Ma vie religieuse a été celle de tout étudiant normal. Je regrette de n'avoir pas toujours été maître de mes tentations. Je n'ai pas toujours évité le péché. » Il y a eu une amélioration lorsque je suis entré en 1857 à l'Association de la Sainte Famille et que j'ai confié la direction de mon âme à un rédemptoriste. C'est donc vers le milieu de ses études au lycée quand il a 16 ans, oui, 16 ans environ. Une profonde conversion intérieure se fait en lui à Berlin. La congrégation de la Sainte Vierge, la conférence de Saint-Vincent-Paul, l'Association des étudiants, tout ça crée l'atmosphère propice, puis ça l'aide puissamment, ça le soutient. On a besoin de soutien souvent, surtout quand on est jeune comme ça. Il dit ainsi, je me trouve plongé au milieu de l'activité catholique de la capitale. L'abbé Müller, le fameux Edward Müller, oui, Édouard Müller, l'apôtre de Berlin, un grand prêtre, particulier, plein de zèle, a une influence décisive sur lui. Ce saint prêtre a réuni les catholiques étrangers. Et il a fondé de nouvelles paroisses et des associations pour leur donner une patrie spirituelle. Et Jérôme Yeagan raconte, M. Müller, ce prêtre conseiller épiscopal que je choisis comme confesseur, exerce une grande influence sur moi. Elle est si salutaire qu'à mon départ de Berlin, ma vie religieuse a un fondement solide. Le prêtre m'aide à vaincre le péché. Il me demande de faire une lecture spirituelle quotidienne, de pratiquer méthodiquement la vertu. La vertu, c'est évidemment la chasteté, mais aussi la justice. La vertu dans le sens très général et complet du terme. Il me demande aussi de lui rendre compte de mes efforts en confession. Je me vois ainsi pleinement engagé dans la voie de la perfection. Alors, notre ami Jérôme Yeagan, qui a passé quelque temps à Berlin, où il s'est converti, quitte Berlin, bien décidé à tendre à la sainteté. Il est tout jeune. Il écrit, selon le plan de Dieu, tout homme doit se charger d'une tâche déterminée. Il ajoute, à l'époque où il vit, à l'endroit où il se trouve, avec les talents qu'il a reçus, chacun doit s'efforcer de réaliser ce plan pour reconnaître Dieu comme son créateur souverain et le glorifier. Le glorifier, ça veut dire l'aimer. l'aimer, lui rendre grâce, le remercier, le glorifier. Souvent, il y a des gens que ça le gêne, ce vocabulaire. Hein. Convaincu de cette vérité, le jeune Hagen se met à l'œuvre. Alors, le technicien de la construction des machines, qui est expert en matière de comptabilité, il exige dans la vie spirituelle aussi l'ordre et la discipline pour lui et les autres, et voici ce qu'il écrit. C'est un peu long, mais ça vaut la peine. Faites-vous un règlement de vie quotidienne. Fixez l'heure du lever et du coucher. Mettez de l'ordre, de la régularité, une impitoyable exactitude dans votre vie intérieure et extérieure. Le désordre ferait perdre beaucoup de temps. Ne laissez pas les détails de votre vie au hasard, à l'arbitraire ou au caprice. Faites donc régulièrement votre prière matin et soir et l'examen de conscience à la fin de la journée, brièvement mais sérieusement et à genoux. Ne mettez jamais la prière avant et après le repas, ni chez vous, ni ailleurs, ni au restaurant. Il prend presque tous ses repas au restaurant, d'ailleurs. Efforcez-vous d'assister tous les jours et aussi souvent que possible à la messe. Recevez souvent les sacrements de pénitence, c'est-à-dire la réconciliation, comme on dit aujourd'hui, et de l'Eucharistie. Faites tous les jours, et aussi souvent que votre travail vous le permettra, une lecture spirituelle ou une méditation. Accomplissez votre devoir professionnel de votre mieux et donnez le bon exemple, ce qu'il a fait toute sa vie. Assurez-vous ainsi, dans l'intérêt des vôtres, une situation honorable et influente dans le monde. Mais oui, si les chrétiens avaient un peu plus d'influence dans le monde, ça changerait bien des choses. Et il termine en disant, montrez par votre attitude que la piété sincère et forte peut se concilier avec tout état de toute profession. Efforcez-vous de penser souvent à Dieu dans la journée. Il est présent partout. L'union à Dieu vous sera difficile au commencement, mais plus vous avancerez dans la vie spirituelle, plus elle vous deviendra facile et plus vous y trouverez de joie. Comme vous voyez, il parle de ces choses-là très simplement et très directement. Or, les conseils que Hagen donne dans son livre « Lutte pour le souverain bien », il les pratique fidèlement, point par point, toute sa vie. Il dit une chose merveilleuse, que l'idéal de votre vie soit d'avancer lentement, d'un degré à l'autre, dans la vie spirituelle. Ne vous donnez pas de repos avant d'être arrivé à une profonde union au Dieu trinitaire dès cette vie. Alors, fidèle au principe qu'il énonce, il médite tous les jours. Sa propre expérience lui permet de dire, d'ailleurs, que la méditation n'est pas aussi difficile qu'on ne croit d'abord. Il ajoute, elle donne des joies surnaturelles insoupçonnées, de plus en plus profondes. C'est donc que le Christ est au centre de sa prière contemplative. Il le dit d'ailleurs, plus nous prenons part à la vie du Christ, plus nous lui sommes unis. Le grand amour qu'il nous a montré par l'œuvre de sa vie, surtout par sa passion, nous presse d'y correspondre. Oui, nous presse d'y correspondre. Alors, de la méditation, Hagen passe tout naturellement à la participation au sacrifice eucharistique, à l'assistance à la messe tous les jours. Il assiste tous les jours à la messe et il considère que l'union à cette offrande du Christ à son Père est l'acte le plus noble de la journée. Ça se fait dans l'unité de l'Esprit-Saint. Il communie presque quotidiennement. Pour ne pas se faire remarquer, c'était avant le décret de Pie X sur la communion fréquente, hein, c'est pas permis de communier tous les jours. Bien, il change d'église ou de chapelle. Et de plus, il fait tous les jours ses visites au Saint-Sacrement. Il y reste fidèle, même quand il est en voyage. Un de ses collègues, député du Parlement de Prusse, dit de ses semaines chargées, « Nous nous rencontrions généralement à l'église Sainte-Anne ou à la chapelle de l'Institut. Et notre ami Hagen y était souvent, non seulement à la messe quotidienne, au salut et à l'adoration, au salut du Saint-Sacrement, là, et à l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement encore, mais très fréquemment. Il y était presque toujours quand j'y allais. Je l'y trouvais toujours dans la même position, à genoux, les mains jointes, immobile, le regard fixé sur le tabernacle, généralement sans livre de dévotion, abîmé dans l'adoration ou la méditation. Et le fruit de ces exercices, puis la réception des sacrements, c'est une profonde union au Seigneur qui s'opère chez Jérôme Hagen. Elle fait partie de sa vie, cette union. Elle fait partie de son travail. Il pratique aussi ce qu'il dit. Tout ce que le fidèle fait, dit-il, il le fait pour le Seigneur et avec lui. et lui donne toutes ses forces, celles du corps aussi, pour être volontairement un instrument docile dont le Seigneur puisse se servir. Il ajoute, ce n'est plus lui qui vit, pour ainsi dire, c'est le Seigneur qui vit en lui. On trouve ça dans Saint Paul. Si Yegun ne fait jamais allusion à son célibat, du moins dans les écrits qu'il a laissés, la chaleur dont il en parle dans son livre montre qu'il a renoncé au mariage pour des raisons profondément religieuses. Pourquoi? Pour appartenir complètement au Seigneur et pour aider ceux qu'il considère comme ses frères et sœurs. Il veut une virginité totale et sainte et généreuse. Pas un célibat recroquevillé. Son dévouement au service du prochain s'inspire toujours de l'union au Christ, qui est la source. Yegun sait se consacrer totalement aux autres. Et dans son livre, il expose l'idéal qu'il est toujours efforcé de réaliser. Écoutez bien ça. L'amour du prochain tente à embrasser tous les hommes sans exception, car ils sont tous enfants de Dieu. Le chrétien est aimable, serviable et bienveillant, joyeux avec ceux qui sont dans la joie, compatissant dans la peine. Il ne tient pas compte de la différence des situations, mais voit avant tout le salut de l'âme, s'efforçant de toujours juger du point de vue surnaturel et de régler la parole et l'action sur lui. Il pense sans cesse à la belle parole du Christ, « Ce que vous avez fait pour le moindre de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Quand on lit ça, évidemment, on voit bien que Jérôme Yegun parle des chrétiens. Il sous-entend ce qu'il a dit dans la première phrase, « L'amour du prochain tente à embrasser tous les hommes sans exception. » Il s'agit donc des chrétiens qui sont prêts à aimer inconditionnellement même les délinquants, les plus petits, ceux que Jean Vanier recueille dans ses quelques cent arches à travers le monde, et ceux que recueillent, mettons, les familles d'Emmanuel L'Amour qui sauve, là, dont je vais vous parler le 19 mars prochain, lors de la fête de Saint-Joseph, père adoptif de Jésus. Alors ainsi, l'amour du prochain n'est pas seulement une question de sentiment chez Yegun. Il a 25 ans. Si, c'est pas une question de donner un peu d'argent ici et là. C'est une sage théorie qu'il a, sur la question sociale d'abord. D'accord, il a formulé plus d'un excellent principe dans ce domaine, mais avant tout, il tient à l'action. Dans sa profession, il montre beaucoup de compréhension à ses subordonnés. Il voit en tout ouvrier, non le frère du Christ, il voit en tout ouvrier l'homme, mais pas seulement l'homme, il voit d'abord le frère du Christ. Il est surtout l'apôtre de la charité, puis il apporte une précieuse et fidèle collaboration à l'évêque de Trèves, son évêque. Il est membre dévoué de la Société Saint-Vincent-de-Paul, je vous l'ai dit, puis il écrit, « Ici, à la Société Saint-Vincent-de-Paul, l'orgueil et l'esprit de caste disparaissent. Tous sont égaux dans l'amour des pauvres selon l'esprit du Christ. » Le prince va s'asseoir auprès de l'artisan. On voit des jeunes gens grimper avec enthousiasme sur les vieilles maisons et descendre dans les caves pour visiter les pauvres, écouter leurs doléances et procurer quelque soulagement à leur misère. Mais ça suffit pas pour Yegun de s'associer à la charité organisée. Il l'a fait aussi de son propre compte. Il mène une vie très simple. Il a économisé beaucoup d'argent pour le donner à ceux qui sont dans le besoin. Il parle naturellement de sa générosité, contrairement à son désir, mais il en parle pour que ce soit imité. C'est pas par orgueil. Nombreux sont les mendiants et les personnes en détresse qui viennent frapper à sa porte, et c'est encore par charité qu'il met ses connaissances professionnelles au service de beaucoup d'œuvres religieuses. Et pour faire aussi la charité spirituelle, il écrit son livre « Lutte pour le souverain bien » dont je vous ai parlé, au milieu de ses occupations quotidiennes. Il dit « J'ai pratiqué tout cela 20 ans ». Avant de l'écrire. C'est ce qu'il dit à une religieuse, très simplement, en lui offrant son livre. Il n'y a pas de fausse humilité chez lui. Son petit ouvrage est destiné à aider les chrétiens dans le monde à avancer dans la perfection. Et son grand ami, l'évêque de Trèves, Mgr Corum, écrit dans la préface de la deuxième édition ce qui suit. « L'ouvrage est le fruit spirituel d'un homme qui s'est appliqué avec conviction à combattre le bon combat pour le souverain bien. » On voit à première lecture que le livre est le résultat de l'effort personnel, de la prière ardente, de la profonde réflexion et d'une riche expérience de la vie. Et ce ne sont pas de sages conseils donnés par un moine qui vit au loin dans sa cellule. Ce sont les paroles d'un chrétien engagé dans le monde. Monsieur Yegun veut montrer le chemin de la perfection à ceux qui sont absorbés par le travail comme lui. C'est ce qui donne sa grande valeur à son livre qu'il n'avait pas signé. C'était un ouvrage écrit sans nom d'auteur. Parce que des vies de saints puis des vies de grands personnages qui ont vécu vraiment ardemment comme aujourd'hui, ce directeur de banque, ce député allemand, cet homme préoccupé de comptabilité, de machines et toutes sortes de choses, et qui a une vie absolument extraordinaire dans ce sens qu'il a su unir une vie ordinaire finalement à une haute vie mystique, ça mérite d'être connu et ça nous fait du bien et ça enchante nos journées. Et peut-être que deux auditions, c'est peut-être pas mauvais. Je crois que beaucoup de gens ont bien raison. En tout cas, je les remercie d'écouter deux fois par jour. Ça me touche beaucoup. Alors donc, M. Yegun, ex-directeur de banque, devenu député allemand, a 70 ans lorsque paraît son deuxième livre, qui a un titre qui va vous surprendre pour un laïc, « Vie mystique ». C'est un manuel, on pourrait dire, qui est écrit par un homme dont la profession est de s'occuper de dettes et de prêts, et puis qui est député par surcroît. Heureusement, Monseigneur l'évêque de Trèves l'a encouragé. Fait plus remarquable, le livre est écrit, sauf quelques exceptions, dans une langue simple. Une langue simple, en allemand évidemment, mais forte. Et celui peut très bien affronter la critique des théologiens spécialistes, dit-on, chez les jésuites et les rédemptoristes. Comment Yegun est-il amené à écrire son livre? Il l'a écrit pour le clergé, un laïc. Il l'a aidé pour aider le clergé qu'il aime beaucoup à diriger les âmes, que la grâce attire vers la contemplation, parce que souvent un prêtre peut être dépourvu devant ça. C'est besoin de quelque chose de saint pour comprendre une âme. Puis pour aider donc le clergé à distinguer ce qui n'est pas toujours facile entre vrai et fausse mystique, il y a tellement de gens un peu malades. Hein? De pitié, au fond, ils sont un peu malades et ils unissent à la fois leur aventure spirituelle à leurs problèmes psychologiques. Alors le livre s'appuie résolument sur la tradition. Et ce livre puise dans l'enseignement des grands maîtres. D'abord Thérèse d'Avila. Et surtout, il repose du commencement à la fin, sur l'expérience personnelle, ce qui le rend vibrant et convaincant. Monsieur Yegun a reçu beaucoup de grâce. Mystique, il fait l'expérience de la présence de Dieu au très fond de son âme. Il ne décrit pas en détail les grâces dont il a été privilégié, mais dans le résumé de sa vie, qu'il rédige à la demande de son confesseur, il avoue avec humilité et reconnaissance avoir reçu des grâces particulières. Son deuxième livre, « Vie mystique », aide à mieux comprendre encore le charisme mystique de cet homme exceptionnel, d'un laïc. Il apporte au printemps de 1911, à 69 ans, son manuscrit pour le soumettre à l'examen d'un théologien. Il ne veut pas publier des choses qui seraient erronées. Hein? Et il lui dit à ce théologien en partant, comme pour se justifier très simplement, « L'âme dont je parle dans mon ouvrage est la mienne. J'ai vécu tout ce que je dis. » Jérôme Yegun a commencé à tendre résolument la perfection dès le commencement de ses études à l'Université de Berlin, alors qu'il n'a pas encore 20 ans, je vous l'ai raconté. À 25 ans déjà, il a sa première expérience mystique. Il parle de lui-même, au fond, en disant: un jeune réserviste, vous savez, c'est jeune soldat, si vous voulez. Un jeune réserviste fervent dans sa dévotion à la Sainte Vierge est appelé sous les drapeaux. C'est la guerre. Avant de partir, il va à une chapelle de la Sainte Vierge où il se trouve le Saint-Sacrement pour se mettre sous la protection de Jésus et de Marie. Au cours de sa prière, il lui semble entendre une voix d'en haut lui recommander avec instance d'aller en paix, de demander secours au Seigneur dans les difficultés spirituelles et de s'adresser à la Mère de Dieu dans les dangers du corps. Les deux promettent de l'aider. Le jeune réserviste est comme transformé. Évidemment, vous comprenez, c'est de lui-même qu'il parle. Ce n'est là qu'un événement passager dans sa vie. La vie mystique, prière et contemplation, commence lorsque Yegen revient de la guerre et entre à l'usine Leis, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il jette un regard en arrière, puis il décrit ses dispositions intérieures. Il écrit « Quand Dieu veut entrer en rapport plus étroit avec une âme, il lui donne un désir calme et paisible, mais constant de lui. S'il n'y a pas d'obstacle pour barrer la route, l'âme passe de la prière ordinaire à la contemplation mystique sans même très souvent le remarquer. » Ça rappelle cette parole du petit paysan, hein, dans la vie du curé d'Ars, qui dit qu'il reste longtemps dans le Saint-Sacrement, puis il dit « Je l'avise et il m'avise. Je regarde Dieu et il me regarde. Et je sens sa présence et je lui suis présent. » C'est tout. C'est cette contemplation, ce recueillement. Une lumière qu'il n'avait pas soupçonné, inonde son âme et lui donne un entendement extraordinaire à Jérôme Yegen. Il commence à comprendre la paix de Dieu. C'est le premier degré de sa vie mystique, le recueillement et la paix en Dieu. Il écrit cette belle phrase, « La grâce a une action si forte sur l'âme et l'entraîne d'un tel élan vers la connaissance et l'amour de Dieu qu'il est très difficile de s'arracher à cette douce paix pour faire des considérations personnelles puis éveiller soi-même le sentiment de l'amour. » Alors, ces expériences donnent une humilité plus grande. À la lumière de Dieu, qui est si près, là, Jérôme Yegen s'effraie de voir les défauts puis les imperfections. Il prend la voie de la purification active. Il accepte en même temps toutes les épreuves corporelles et spirituelles, ce qui est la voie passive. Alors, le voilà donc préparé puis rempli du désir toujours croissant de Dieu. Monsieur Yegen est élevé au deuxième degré de la vie mystique. Il trouve Dieu au fond de son âme, non seulement par la foi, mais dans une expérience personnelle absolument sûre, toujours plus profonde, à mesure que la grâce lui est donnée plus fréquemment. Au milieu du bruit de l'usine, ou des problèmes de l'administration de la banque, M. Yegen a un tel sens de la présence de Dieu en lui, qu'il ne trouve pas de mots pour exprimer son bonheur. Qui a vécu ça et qui est mort à Québec, qui est Marie de l'Incarnation, la bienheureuse Marie de l'Incarnation? Elle était veuve, hein, en France. Elle dirigeait une compagnie de transport avec des gens qui sacraient et tout ça, des chartiers, des chevaux et tout ça. Puis elle vivait ça. Elle avait le sens de la présence de Dieu en elle. De plus en plus unie à Dieu, l'âme de Jérôme Yegen désire vivre dans l'intimité des trois personnes divines, surtout du Fils de Dieu, le Christ. Il cherche à se rapprocher de lui par la prière, le travail et la souffrance, mais il y a toujours un mur qui se dresse entre lui et son Seigneur. Un jour, le mur s'écroule sous l'action de Dieu et la grâce la plus précieuse est donnée à Yegen, c'est l'amitié mystique du Seigneur. Étonnant, hein? Il s'en explique comme suit. Écoutez bien ça. Jusqu'à présent, l'âme a eu un grand amour de la Sainte Vierge qu'elle vénère de son mieux. Et désirant s'unir au Christ, elle implore la Sainte Vierge d'intercéder en sa faveur. Elle y est exaucée. Un soir, dans la chambre obscure, un tel désir du Sauveur s'empare de l'âme qui a demandé la méditation de la Sainte Vierge, que, sous l'impulsion du cœur, le fidèle se jette à genoux contre la paroi et fait cette prière. « Mère Céleste, si un enfant implorait sa mère de lui faire une grâce qu'elle peut très bien lui accorder, elle ne la lui refuserait pas. Alors conduisez-moi vers le Seigneur, comme je vous ai si souvent demandé. » Ces paroles sont à peine prononcées que le fidèle en prière ferme les yeux et voit en esprit la Sainte Vierge devant lui. Une illumination intérieure lui fait comprendre que c'est elle. Une grande joie s'empare de son âme, puisque la Mère de Dieu est venue pour l'exaucer. Se relevant, il voit en esprit le Seigneur qui se tient à côté de lui. Il se précipite dans ses bras et Jésus l'y reçoit. Soudain, toutes les images de l'esprit disparaissent. Si grande est la conviction et la joie d'avoir enfin trouvé le Seigneur que le privilégié comme ivre de bonheur spirituel est incapable de rien faire tout le reste de la soirée. Cet événement, s'il est vraiment arrivé, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Je vous le répète, il ne faut pas tomber dans les exagérations. On peut les lire, on peut se dire que c'est probable, c'est sincère, ça a l'air vrai. C'est arrivé en 1867 ou 1868, alors qu'il a 26 ou 27 ans. Ce jeune monsieur Yegen ajoute les importantes considérations suivantes à son récit, tout à fait surprenant de la part d'un banquier. C'est vrai qu'il écrit ça sur son, alors qu'il est âgé. Il faut que l'âme privilégiée attende longtemps, dit-il, des mois peut-être, que le Seigneur vienne la visiter ainsi une deuxième fois. Si elle lui reste fidèle, il vient peut-être souvent. La distance entre le ciel et l'âme, ainsi distinguée, diminue alors toujours. Le Seigneur aime surtout visiter les âmes qui méditent sa passion. Pour méditer sa passion, il n'y a rien, je crois, comme la contemplation du Saint-Suaire de Turin dans toute sa beauté, sa grandeur, où l'on voit toutes les traces de sa passion, et de lire les textes de l'Évangile, accompagnés de cette image, de cette grande image. Les années qui suivent sont remplies de conversations familières avec Jésus. Il dit un jour à Yegen, « Notre Seigneur, soyons amis, je serai le tien, tu seras le mien. » Environ 8 ans plus tard, le Seigneur lui fait comprendre par différentes illuminations qu'il veut une union encore plus étroite avec lui, mais il faut d'abord traverser le champ d'une nouvelle purification durant laquelle, dit Yegen, son âme est jetée ça et là comme une balle. En 1876, à 35 ans, le Seigneur lui fait la grâce des épousailles mystiques. C'est étrange, hein, pour un homme si solide. C'est le 4e degré de la vie mystique. Le privilégié, écrit-il, du Seigneur est à genoux, abîmé dans la prière. Conscient d'être dans sa chambre, occupé à méditer, soudain, il perd la conscience extérieure et semble être ailleurs, comme en rêve. De même que Marie-Madeleine a reconnu subitement Jésus après sa résurrection et s'est jetée à ses pieds, mais le fidèle a comme une vision. Il voit le Seigneur devant lui et l'adore. Le Sauveur l'invite à devenir son ami intime. Le fidèle a profondément conscience d'en être indigne et le lui dit. Il résiste à l'invitation du Seigneur qui veut le faire monter plus haut et se retrouve brusquement à son prie-Dieu dans sa chambre. Jamais joie plus grande n'a pénétré son cœur. Il est si ivre de bonheur qu'il lui est difficile d'accomplir son devoir d'État le reste de la journée. Il reconnaît avec une clarté que le Seigneur a décidé de faire de lui son épouse mystique. Quel étrange langage, hein? C'est le langage chrétien des grands mystiques. Il résiste avec une sincère humilité, mais il sent toujours l'attrait du Seigneur, il y résiste quelques jours, et à la fin, il ne le peut plus. L'amour mutuel est trop fort, il se rend, il trouve le Seigneur, et son âme devient l'épouse mystique. Il connaît maintenant le chemin du cœur sacré. Évidemment, ce langage, je tiens à vous le dire, peut nous surprendre au plus haut point, dans tous les cas. Ainsi commence pour M. Yegen le temps du mariage mystique. Tant de bonheur pour son âme, malgré quelques difficultés, en plein milieu du Kulturkampf, là, dont je vous ai parlé, là. C'est la lutte engagée par le chancelier Bismarck, le fondateur de l'unité politique allemande, contre l'influence de l'Église catholique, n'est-ce pas, dans les États allemands. Et Yegen combat pour l'Église, dont les droits sont attaqués. Il reste pas en prière. Il est alors directeur de la Banque populaire, et le récit de Yegen ne dit pas combien de temps le mariage va durer entre Jésus et lui, et son âme. Mais nous pouvons nous faire une idée de son bonheur quand il dit « Si l'âme reste fidèle à son époux, il vient souvent. Puis tous les jours, enfin il lui semble que le Seigneur ne s'éloigne plus. » Le Seigneur ne s'éloigne plus. C'est le 5e degré de la vie mystique. C'est l'union constante au Seigneur, et Jérôme Yegen l'explique bien. Quand l'âme ainsi comblée veut converser avec le Seigneur, elle n'a plus besoin de le chercher d'abord. Il est partout avec elle. Qu'elle se trouve dans une société bruyante ou au fond des bois, telle est la bonté du Sauveur, qu'il semble porter l'âme sur ses mains. Elle ne le voit pas des yeux de la chair, ni simplement en imagination. Lui, qui est esprit divin, il la saisit par l'esprit, comme par un sens nouveau. Mais elle est incapable de dire comment cela se fait. C'est toujours le mystère des grands mystiques qui habitent un monde où les mots ne suffisent plus. M. Yegen arrive à tous les sommets dont je viens de vous parler, ce 5e degré, là. Il ne l'atteint pas d'un seul bond, évidemment, comme d'autres mystiques. lors de d'épousailles étranges qu'on nous raconte. Mais la grâce se développe lentement, sans transition bien marquée. L'union au Christ chez lui constitue comme une seconde nature, on pourrait dire. Il y a un événement particulier qui scelle cette union. Il raconte cela, il dit, après 1900, disons vers l'âge de 60 ans, il dit, « Je reçus la grâce particulière d'un contrat mystique entre le Seigneur et mon âme. J'étais alors en Suisse, à Engelberg, pour me reposer. » Il écrit l'heure de sa grâce. Il écrit, « Une autre épouse mystique, unie depuis quelque temps au Seigneur, apprit un jour de lui comment elle devait prier, œuvrer, souffrir et converser avec lui. Donc, comment il voulait vivre avec elle et en elle. La grâce du dialogue se manifesta par une vision de l'esprit. » Et par l'invitation intelligible, en pleine conscience, donc sans extase. Le Père Céleste et la Sainte Vierge étaient là en qualité de témoins au contrat de leur fils. Alors, on peut dire ainsi que M. Jérôme Yeguen vit dans l'intimité constante du Christ qu'il porte dans son âme jusqu'à l'heure de sa mort. Il est enfin délivré, si on peut dire, des entraves qui le retiennent à la terre. J'ose pas dire qu'il meurt, parce que quelqu'un comme ça ne meurt pas, hein, il passe dans l'au-delà, hein, il peut aller à ce qu'on appelle en langage mystique aux noces éternelles de l'agneau, hein, c'est le langage mystique catholique. C'est très surréaliste, notre foi, dans son langage, et c'est très beau, c'est très beau. C'est à la fois très littéraire et très vrai, ça cache des réalités magnifiques. Que c'est beau, la foi catholique. En tout cas, c'est un cas bien surprenant. Voilà un chrétien vivant au milieu du monde, chargé des responsabilités de sa profession. Il s'efforce loyalement d'avoir une vie profonde, religieuse, là. Il monte de degré en degré dans sa réponse à l'appel de la grâce. Ça se fait pas sans peine, mais ça se fait toujours avec joie. Un mystique à l'usine, imaginez. Un mystique au bureau directorial d'une banque. C'est curieux, mais c'est merveilleux à la fois. C'est le message que M. Yeguen apporte à notre époque agitée. Il y en a qui regrettent qu'ils ne se soient pas mariés, qu'ils ne soient pas devenus pères de nombreux enfants. Mais je ne suis pas si sûr. Peut-être parce que je suis moi-même célibataire. Mais heureusement, de toute façon, ses livres et surtout sa vie infligent un démenti à ceux qui prétendent que le chrétien d'aujourd'hui ne peut pas tendre à une vie religieuse profonde. M. Jérôme Yeguen répond à cette objection dans l'avant-propos de la quatrième édition de sa « Lutte pour le souverain bien ». Je cite son passage. « Beaucoup de chrétiens fervents croient que leur désir d'étroite union à Dieu ne peut être satisfait qu'au couvent ou au monastère. Je me suis efforcé de montrer qu'on peut traverser les degrés de la vie intérieure et monter au fait, tout en vivant au milieu du monde, implanté dans le monde sans se laisser contaminer par lui. Le chrétien doit s'appliquer à suivre Jésus-Christ. Le Seigneur n'a-t-il pas vécu au milieu du monde? La Sainte Vierge aussi, Saint Joseph aussi, puis les apôtres aussi. Alors le Seigneur n'a-t-il pas vécu au milieu du monde? Le fidèle peut tendre à l'union la plus parfaite. Plus l'effort sera pénible, plus le secours de la grâce viendra le soutenir de sa force divine et infinie. » Fin de la citation. M. Yeguen donne ainsi le programme qu'il a réalisé lui-même. Bon, je vous cite ça aussi, c'est trop intéressant. « Devons-nous fuir, dit-il, ce ne serait pas raisonnable. Dieu nous a placés dans le monde pour que nous y accomplissions une tâche déterminée. Le monde nous appartient donc autant qu'à ceux qui ne partagent pas nos croyances. » Je répète, le monde nous appartient, le monde politique, le monde nous appartient donc autant qu'à ceux qui ne partagent pas nos croyances. Comme eux, nous avons nos droits et nos devoirs envers lui. Mais usant du monde, nous ne nous laissons pas guider par l'esprit du siècle. L'esprit chrétien est notre lumière. N'oubliez pas, il est devenu député. En soi, dit-il, le monde n'est pas notre ennemi. Ce que nous appelons son esprit nous est hostile. Quelle sera notre attitude envers lui? Il faudra d'abord nous défendre. Pour l'empêcher de nous nuire. Pour essayer de l'améliorer, oui. Et comme le montre l'exemple de M. Yeguen, il est possible, aux chrétiens vivant dans le monde, de tendre ardemment à la perfection et à l'union la plus profonde. Oui, l'union la plus confiante, sans passer nécessairement pour un original, c'est pas nécessaire, on peut être normal. L'entourage de M. Yeagan, il soupçonnait pas sa vie mystique. M. Yeagan accomplissait sa tâche d'une façon exemplaire tout en appartenant complètement à Dieu. Il nous livre son expérience. La vraie vie mystique, dit-il, n'empêche nullement d'accomplir le devoir d'État. Le zèle qu'on y apporte selon les circonstances s'allie très harmonieusement à la vie intérieure. Les deux doivent concourir à faire atteindre la perfection dans tous les domaines, dit-il. Arrivé à la fin de son livre, il dit « J'espère avoir convaincu le lecteur que tous, même ceux qui vivent au milieu du monde, peuvent très bien tendre à la perfection chrétienne et mystique, compte tenu des circonstances. Il faut y apporter une collaboration résolue et indéfectible. Il est indispensable, ajoute-t-il, d'avoir de la bonne volonté, de la persévérance, de l'abnégation et l'esprit sacrifice pour surmonter les difficultés. Et elles sont nombreuses. On y arrive, d'ailleurs, toujours facilement, avec l'appui de la grâce. Donc, en recevant souvent les sacrements. M. Yeagan est convaincu que tous sont appelés à la vie mystique. Bon, les théologiens sont divisés sur ce point. Je le répète, Car la grâce mystique n'est pas nécessairement de l'essence même de la perfection chrétienne. C'est pas nécessaire d'avoir ces grâces mystiques-là pour devenir un saint. Répétez-vous ça. C'est pas parce que je n'ai pas, oui, vous n'avez pas, la plupart d'entre vous, j'imagine, comme moi, vous n'avez pas ces grâces-là, ça veut pas dire qu'on peut pas devenir des saints. On peut devenir des petits saints, à tout le moins. Faut pas s'en faire. Quoi qu'il en soit, même au milieu du monde, on peut certainement arriver à la sainteté par l'union à Dieu, à condition, c'est évident, de ne jamais relâcher l'effort. Puis de se mortifier sans cesse, oui, en s'abandonnant à l'amour de Dieu. Faut se mortifier. L'appel à la perfection, la parole de l'Évangile, elle s'adresse à tous. C'est Jésus qui dit « Soyez parfaits comme votre Père des cieux est parfait. » Et la grâce suffisante est offerte à tous. Le reste, la coopération, ça dépend de nous. Problème, c'est toute la question. Est-ce qu'on a, comme Jérôme Yeagan, directeur de banque, député, hommes aux machines comptables, etc., le courage de mener ce qu'il appelle mener une double vie dans la sainteté pour nous abandonner complètement à l'amour de Dieu. Est-ce qu'on a le courage? C'est pas facile, mais ça se fait. À la messe aujourd'hui, il y a une belle lecture. C'est le commencement de la seconde lettre de Saint Paul à l'apôtre Timothée. Puis il dit à un moment donné, voilà pourquoi je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. Je répète, de raison. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. C'est beau, hein? Vous savez, ça coûte rien aller à la messe pour entendre des beaux textes comme ça. Il n'y a pas de billet à l'entrée. Et c'est gratuit. Et c'est le plus beau spectacle, le plus grand, le plus merveilleux de tous les spectacles du jour, chaque jour.